Si les deux entreprises sont sur les mêmes marchés.
Mais ils vont arriver exactement comme ça a été fait pour, à l'époque, Lagardère, Rolls-Royce et d'autres, au moment où on a construit Airbus, ils vont trouver des partenariats. Il est absolument essentiel que l'Europe arrive à reconstituer une industrie qui marche. Il y a des dizaines de milliers d'emplois. On peut pas à la fois dire on veut relocaliser les emplois, on veut une industrie forte en Europe, et en même temps ne pas se donner les moyens politiques de le faire. Donc bien sûr qu'il faut trouver un partenariat avec Siemens, bien sûr qu'il faut, et s'il le faut, il faut partager. Il y a d'un côté le pôle transport, on sait très bien qu'Alstom c'est quand même deux pôles très différents, il y a le pôle transport et il y a le pôle énergie. Eh bien trouvons un partenariat sur le pôle énergie et sur le pôle transport. Ils peuvent être à la limite séparés ces partenariats.
On parle d'une sorte d'Airbus de l'énergie, si Siemens reprenait les activités d'Alstom dans ce domaine-là, c'est un argument auquel vous êtes sensible.
Mais bien sûr, mais c'est pas un argument auquel on est sensible, c'est le principe de réalité.
Oui, mais quelle énergie aussi, parce que...
Mais justement...
Alstom fabrique par exemple des réacteurs nucléaires.
Mais vous avez parfaitement raison de le dire, donc on voit très bien d'ailleurs que ça ne suffit pas à gagner de l'argent. Ça fait des années qu'on nous explique que grâce au nucléaire, dans ce pays, on allait sortir de toutes les situations, et nous expliquons que le nucléaire va nous emmener lentement mais sûrement, et de plus en plus rapidement malheureusement, dans une impasse. Donc on le voit bien d'ailleurs qu'il ne s'en sort pas avec la question du nucléaire. Ça veut simplement dire que nous devons, je répète, poser les questions. C'est ça le rôle de l'État. Plus que d'intervenir financièrement pour les crises, pour essayer de compenser un peu comme il l'a fait dans l'industrie automobile avec le même échec, le rôle d'un État, c'est d'avoir une vision politique et d'avoir un projet. L'Europe, actuellement, est en panne, clairement, de projets. Nous avons là, sur la question des transports et de l'énergie, des dizaines, voire des centaines de milliers d'emplois à créer dans les années qui viennent. On a des projets qui vont redonner vie et du cœur à l'Europe. Elle s'est construite, l'Europe, sur des projets. La communauté du charbon et de l'acier, ça correspondait à une période 1960, c'était il y a 50-60 ans. Et bien maintenant, il faut créer les énergies et les transports du 21e siècle. On a la capacité de le faire, on a l'intelligence, on a les ingénieurs, on a les ouvriers, on a le savoir-faire, faisons-le.
Alstom doit faire connaître sa décision mercredi sur quel repreneur il préfère. Est-ce que c'est cette entreprise qui est une entreprise privée qui doit décider librement ou est-ce que c'est l'État qui doit choisir ?
Les deux, je vous dis, c'est les deux. C'est quand on est sur des secteurs qui sont des secteurs stratégiques, on ne peut pas laisser le marché et on ne peut pas laisser le privé gérer l'intérêt général. La question de l'énergie, la question des transports, par exemple, sont des questions majeures d'intérêt général. Donc il faut qu'on ait un équilibre entre les entreprises et l'État, les États, parce que là on voit bien encore une fois que c'est au niveau du continent européen que ça se règle. Il faut trouver des équilibres. C'est le modèle européen a toujours fonctionné comme ça et c'est bien.
Vous êtes donc Pascal Durand en tête de liste en Île-de-France pour les élections européennes et pour les Français de l'étranger. C'est une spécificité de cette élection. Tous les Français de l'étranger sont automatiquement rattachés à la région Île-de-France. Votre parti va tenir une conférence de presse dans 2 heures pour présenter les grands axes de sa campagne européenne. Quel projet allez-vous défendre alors ?
Eh ben déjà celui-là. Ouais. Vous voyez, on est en plein dedans. On est au cœur du projet des écologistes. Ça fait des années.
Vous êtes sûr que ça peut faire rêver les citoyens, ça, l'Europe de l'énergie?
Écoutez, moi, je sais pas si ça fait rêver. En l'état, j'ai l'impression que l'Europe fait pas rêver grand monde. Et, je crois que, donc, il est temps de revenir. Vous savez, dans le sport, on dit souvent, faut revenir aux fondamentaux quand quand une équipe ne fonctionne pas bien. Là, en l'occurrence, on n'a plus de projet en Europe. On a, une Europe qui est en panne politique et on a une Europe qui est en panne économique. Il y a le chômage, il y a les crises, il y a les questions climatiques et donc nous devons les résoudre. Donc déjà la première des choses, c'est reconstituer des projets autour d'ambitions qui sont des ambitions européennes. Je répète, l'énergie, les transports, l'isolation des bâtiments, etc. Oui. Ça c'est déjà un élément majeur. Baisser notre consommation et nos importations d'énergie fossile, de pétrole, de gaz, c'est des centaines de milliards économisés à terme.
Hein. Sur des choses qui pourraient avoir un impact plus immédiat pour le citoyen.
Mais c'est un impact immédiat. Regardez Alstom.
Le rôle de la BCE, par exemple.
Mais ça, c'est encore une fois, c'est un accessoire. Oui. C'est l'Europe politique. Moi, je répète que si vous me dites que, par exemple, sauver Alstom, ça n'a pas un effet immédiat, c'est 12 000 emplois qui risquent à terme d'être détruits. Et je peux vous développer dans l'industrie automobile, c'est 100 000 emplois qui ont été perdus. Ça, c'est de l'immédiateté. Donc, il faut arrêter de dire que de construire demain une Europe industrielle qui corresponde aux nécessités du 21e siècle, ça n'est pas immédiat. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et vous avez raison, il faut aller maintenant maintenant en Europe vers des logiques qui sont fédérales, qui sont d'harmonisation sociale. Il faut des harmonisations fiscales, il faut des harmonisations budgétaires et bancaires. Donc vous avez parfaitement raison de dire, il faut cela aussi. On peut pas à la fois gérer, poser une monnaie comme on l'a fait avec l'euro et ne pas se donner les moyens de la gouvernance et d'un budget autonome. Le budget européen, c'est 1% du PIB européen. Le budget fédéral américain, c'est 27%. Comment voulez-vous qu'on boxe dans la même catégorie alors que nous avons un PIB globalement...
Les États-Unis, c'est un pays avec une seule langue.
Oui, bah, l'Europe, c'est une monnaie. C'est un je répète, c'est un projet commun et c'est l'horizon, c'est le plus grand marché entre guillemets mondial, c'est 22% du PIB mondial l'Europe. On ne résoudra pas les questions de la mondialisation, on ne résoudra pas les problèmes face à la Chine, face aux États-Unis ou face à la Russie, tout seul, chacun de notre côté. On a besoin d'une Europe forte et d'une Europe politique.
Est-ce que vous allez vous sentir plus à l'aise pour faire campagne sans écologistes au gouvernement?
C'est vraiment pas le sujet de la campagne des européennes.
C'est une question que je vous pose.
Non, mais vous avez raison de poser la question, vous êtes dans votre rôle. Mais moi, j'ai raison de vous répondre aussi que la nationalisation du débat, c'est pas la bonne approche. La question du gouvernement français, il y en a qu'une, c'est quelle politique le président Hollande veut mener en Europe. Ça c'est un vrai sujet. Alors, et de ce côté-là, on est très très inquiet parce que le président Hollande, il est dans des grandes déclarations sur la nécessité de l'Europe lorsqu'il est en France et lorsqu'il est à Bruxelles ou à Strasbourg. Il laisse voter déjà tout ce qui concerne la baisse du budget européen, c'est-à-dire que donc il ne donne pas à l'Europe les moyens de vivre, et par ailleurs il vote, de même que les députés socialistes, tous les textes sur l'austérité et tous les textes qui affaiblissent l'Europe. Donc là il y a une vraie difficulté.
Alors j'ai une autre question sur sans écologiste au gouvernement, est-ce que du coup les Verts vont oser voter demain contre le pacte de responsabilité, les 50 milliards d'économies?
Écoutez, il appartient aux parlementaires et aux parlementaires français écologistes de se situer. En ce qui nous concerne, on a été extrêmement clair. Le mouvement Europe Écologie Les Verts a clairement dit que le pacte de responsabilité tel qu'il était construit pour le moment ne correspondait pas aux nécessités du moment, n'allait pas résoudre les crises que la France traverse et que la logique qui était derrière ce plan était une logique austéritaire. Ça n'est pas ce dont nous avons besoin pour le moment.
Donc la logique serait demain de voter contre ou à minima de s'abstenir.
Ah bah en tout cas, il ne me semble pas raisonnable de voter pour ce pacte de responsabilité en l'état des propositions qu'il porte et des logiques qu'il sous-tend.
Merci Pascal Durand, bonne journée.
Pascal Durand, tête de liste Europe Écologie Les Verts aux élections européennes en Ile-de-France et pour les Français de l'étranger, invité de Frédéric Rivière ce matin. Vous restez avec nous sur RFI dans un instant, c'est le journal avec Bruno Faure. Focus tout à l'heure sur les violences entre sunnites et chiites en Irak. On est à 48 heures des élections législatives dans le pays. Et puis la revue de presse des journaux français à suivre aussi avec François-Xavier Frelan. À tout de suite.
Vous m'en direz des nouvelles ? Jean-François Cadet.
Tous les coups sont permis, surtout les coups bas. À en croire Marc Duguin, c'est la règle absolue du pouvoir en France. Son nouveau roman « L'Emprise » nous décrit les liaisons dangereuses entre les milieux politiques, économiques et les services secrets. Un cynisme absolu.
Vous m'en direz des nouvelles. Jean-François Cadet.
Aujourd'hui, à partir de 13h10 TU.
RFI.
Bonjour à tous, il est tout juste 8h à Paris.
Bruno Faure.
À la une, de nouvelles sanctions dans les tuyaux contre la Russie. Les séparatistes poursuivent leur offensive dans l'est de l'Ukraine. Les observateurs de l'OSCE sont toujours détenus. Seul l'un d'entre eux a été libéré pour raison médicale. 22 morts, au moins en Centrafrique, attaque d'un centre médical au nord de Bangui. En Algérie, les 94 mots que devra prononcer Abdelaziz Bouteflika, prestation de serment pour son 4e mandat. En France, le président Hollande et le gouvernement tentent de peser dans le dossier Alstom. Un choix doit être fait dans les 48 heures pour le rachat, soit par l'allemand Siemens, soit par l'américain General Electric. Le football, Lille, candidat plus que jamais à la qualification en Ligue des Champions pour l'an prochain. Victoire sur Bordeaux hier soir, le PSG tenu en échec à Sochaux n'est toujours pas champion de France. Et puis nous avons une pensée, comme chaque jour, pour tous les otages dans le monde et notamment Serge Lazarevitch, détenu au Sahel. viser le cercle rapproché de Vladimir Poutine dès ce lundi, sans doute des sanctions, encore des sanctions contre la Russie, jugée responsable des derniers événements en Ukraine. Les Américains et les Européens estiment que Moscou n'applique toujours pas l'accord qui devait faire baisser les tensions. Bonjour Anastasia Becchio. Anastasia, vous êtes avec nous ? Anastasia ne nous entend pas, c'est notre envoyé spécial dans l'est de l'Ukraine. Je fais un nouvel essai avec Anastasia Becchio. Est-ce que vous nous entendez ? Non, toujours pas ?
Oui. Oui, je vous entends.
Ouais, merci, merci Anastasia. De fait, les séparatistes pro-russes ne relâchent pas la pression dans l'est de l'Ukraine. Les observateurs de l'OSCE ont même été montrés devant la presse.
Oui, les rebelles pro-russes savent qu'ils détiennent des otages de choix avec ces observateurs de l'OSCE capturés vendredi en compagnie de 4 officiers ukrainiens. Dès le début, ils n'ont pas caché que ces hommes qu'ils considèrent comme des espions pourraient constituer une monnaie d'échange. Ils vont donc tenter de faire monter les enchères et cette mise en scène organisée hier dans la salle du conseil municipal de Sloviansk, dans un bâtiment entièrement barricadé, fait partie du tableau. Les 8 observateurs européens ont donc été montrés à la presse. En fin de journée, l'un d'eux, de nationalité suédoise, qui souffre de diabète, a été relâché. Mais les autorités autoproclamées de la ville rebelle ont annoncé qu'il n'y aurait pas d'autre libération dans l'immédiat. Les tractations vont donc se poursuivre dans un climat de plus en plus tendu, alors que les insurgés se préparent à un assaut des forces spéciales qui stationnent à quelques dizaines de kilomètres de là. Pas de négociation en vue en revanche pour 3 militaires haut gradés ukrainiens capturés, détenus à Sloviansk, accusés d'espionnage eux aussi. La télévision russe a montré des images humiliantes des 3 hommes en caleçon, les yeux bandés, couverts de rubans adhésifs.